Il est 18h15 à Niamey. Fidèles auditeurs, bonsoir. C'est à présent l'heure du forum du studio Kalangou, le rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques, de débats et de dialogues sur des questions d'actualité ou de société que vous suivez grâce à notre large réseau de 45 radios partenaires émettant dans toutes les 8 régions du Niger. Situation de la drépanocytose au Niger, quel rôle peut jouer le dépistage précoce dans la lutte contre cette maladie? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Également appelée anémie à hémacie falciforme, la drépanocytose constitue la première maladie génétique mondiale atteignant environ 50 millions de personnes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chaque année, 300 000 enfants naissent avec une anomalie majeure de l'hémoglobine et l'on recense plus de 200 000 en Afrique, soit plus des deux tiers. À l'occasion de l'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année, le ministre nigérien en charge de la santé publique a rappelé que le Niger fait partie des pays où la drépanocytose constitue un problème majeur de santé publique du fait de sa prévalence élevée, estimée à 23,2%, compte une prévalence de 13% pour le continent africain. Que signifie donc cette maladie induisant à la fois une souffrance physique et psychologique? Comment se transmet la drépanocytose? Quelles sont les différentes formes de drépanocytose? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres dans ce studio, Ila Mahamad Laoli, président de l'ONG Bafouneï Drépanocytaire du Niger, une structure créée en 2007 qui mène des actions de sensibilisation sur cette maladie au Niger. Président, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et au téléphone, nous avons le docteur Ali Baydari. Il est le médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
À la présentation, Michel Deji. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Dr Ali Baydari, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose, expliquez-nous ce que la drépanocytose.
Nous allons d'abord remercier les studios Kalangou pour nous avoir invités à parler sur cette maladie génétique mondiale, la première au monde, mais aussi la première au Niger. Eh bien, c'est quoi la drépanocytose? Comme son nom l'indique, drépanocytose, on le coupe en deux, drépa qui veut dire cellule et cytose, déformation, d'accord? Donc, la drépanocytose, c'est la maladie qui déforme le globule rouge en fossile. Maintenant, la drépanocytose, comme on l'entend, ce sont les parents qui vont transmettre cette maladie à leur progéniture. Mais pour que le patient soit malade, comme on le dit, il faut qu'il hérite le gène S du père et de la mère, parce que là, il faut le « et ». C'est les deux qui vont faire en sorte que l'enfant qui va naître sera drépanocytaire SS, SC ou S-bêta thalassémique. Maintenant, pour le dire, puisque le ministre l'a déjà dit, nous avons une prévalence de 23,2% de gènes. Cela veut dire que c'est l'ensemble des personnes qui ont simplement le gène S dans leur sang.
Ça veut dire donc que les 23,2% là représentent les porteurs sains et les porteurs malades, c'est ça?
Exactement, c'est l'ensemble des porteurs sains et des porteurs malades qui sont à ce taux de 23,2%. Donc un Nigérien sur 5 apparemment, vous voyez. Maintenant, pour ceux qui sont drépanocytaires malades, nous appelons ça le syndrome drépanocytaire majeur. Donc ceux-là qui sont malades, les SS, les SC et les S-bêta thalassémique, ils sont dans les environs de 3 voire 4% des Nigériens.
Alors, docteur, quelles sont les différentes formes de drépanocytose alors?
D'accord. Donc, les formes mineures, c'est-à-dire les très drépanocytaires, ils sont au nombre de 3, les AS, les AC et les A-bêta thal. Ça, ce sont des porteurs sains. Maintenant, les malades eux-mêmes, ce sont ceux qui sont SS, c'est-à-dire ceux qui ont hérité un gène S du père et un gène S de la mère. Les personnes ST qui ont soit hérité le gène S du père ou de la mère, plus un gène C, soit du père, soit de la mère. Et les, maintenant, les S bêta thalassémie qui sont un peu comme dans les ST, un gène S, soit du père ou de la mère, et le gène bêta thal, soit du père ou de la mère. Donc voilà les personnes qui, en faisant ces combinaisons-là, sont des personnes qui sont de drépanocytaire majeur, donc des personnes qui sont malades de la drépanocytose.
Merci docteur. Ila Mahamaloli, président de l'ONG Bafouneï Drépanocytaire du Niger. Dites-nous les raisons qui vous ont poussé à vous impliquer dans la lutte contre la drépanocytose au Niger au sein de cette ONG créée depuis 2007. On l'a rappelé, dont vous êtes le président aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur Michel. Donc, je dois d'abord aussi rappeler que cette ONG, c'est une ONG reconnue par arrêté du 27 juillet 2007. C'est une ONG spécialement constituée que des drépanocytaires. Donc, je dois rappeler que si nous voulons changer quelque chose, nous ne pouvons contribuer à ces changements qu'en étant soi-même acteur de ces changements. Donc, étant drépanocytaire aussi SS, j'ai jugé utile d'apporter aussi ma contribution en adhérant donc à cette ONG qui a été créée, je le rappelle, depuis 2007 pour ensemble mener ce combat, c'est-à-dire améliorer les conditions de prise en charge des malades que nous sommes et aussi sensibiliser la population afin de mieux lutter contre cette maladie qui ne fait qu'accroître.
Ila Mahamad Lawli, président de l'ONG Bafouneï Drépanocytaire du Niger. Qu'est-ce que cela vous a fait quand vous étiez encore très jeune, le fait de réaliser que vous êtes drépanocytaire, une maladie qui peut bouleverser toute une vie?
Justement, la drépanocytose, c'est une maladie qui bouleverse toute une vie. Parce que et moi, depuis mon enfance, c'était à l'âge d'environ 9 mois, comme ça, où je suis drépanocytaire. Et depuis ces jours-là, nous suivons donc des examens, nous suivons les tests régulièrement au niveau de l'hôpital. Puisque avant, la prise en charge se faisait à l'hôpital national. Donc, depuis cet âge-là, j'ai eu des problèmes sociaux, des problèmes au niveau académique, parce que personnellement, cela a eu un impact vraiment important sur mon cursus scolaire, je dois le rappeler. Parce que quand tu es drépanocytaire, c'est une maladie qui n'est pas du tout reconnue par la population. Donc souvent, tu fais face à des préjugés parce que le drépanocytaire, c'est une personne. Il n'est pas comme toutes les personnes saintes. Donc il y a des choses qu'un drépanocytaire ne peut pas faire, comme les activités d'éducation physique et sportive. À l'école, tu vois seulement tes camarades jouer, mais toi, tu es tout le temps écarté. Tu ne peux pas le suivre parce que toi, tu sais ce que ça va te causer. Donc, depuis mon enfance, j'ai fait face à ces genres de choses-là jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à Dieu, jusqu'à ce que j'arrive à comprendre mieux, à vivre avec cette maladie. Et je peux dire que Dieu merci, voilà.
Dieu merci, ça évolue et continuez le combat, bien que vous êtes drépanocytaire. Alors, comment la maladie se manifeste-t-elle dans votre corps, Ila Mahamad Lawli?
Justement, quand on est drépanocytaire, souvent, quand même on fait des activités, on a tendance à avoir des débuts de douleurs. On a des douleurs au niveau des articulations. Ça commence toujours par des douleurs au niveau des articulations ou bien des maux de ventre. Trop souvent, voilà.
Il arrive que vous fassiez des crises?
Justement, les crises drépanocytaires sont des crises en tout cas régulières parce que par an, moi personnellement, je peux compter les nombres de crises à environ 5 crises par an. Ça, c'est quand tu arrives à gérer mieux ta maladie, sinon souvent...
Ça veut dire même avec un suivi régulier, vous faites des crises?
Même avec un suivi régulier, les crises, en tout cas, sont là. Seulement, quand ça survient, c'est un peu différent que voilà, quand tu ne fais pas
de suivi régulier.
Oui, oui.
Alors, docteur Ali Baydari, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose, nous avons écouté Ila Mahamad Lawli, président de l'ONG Bafouneï Drépanocytaire du Niger, qui est lui-même drépanocytaire, qui nous a dit ce qu'il sent parfois et le fait qu'il lui arrive de faire des crises. Mais quels sont les symptômes de cette maladie, la drépanocytose, docteur?
Merci bien. Je remercie par la même occasion M. Ida Mohamed Lawali, que je connais très bien, qui fait vraiment beaucoup de choses pour ses autres collègues drépanocytaires. Eh bien, les signes de la maladie, ces signes-là, sachez que nous allons les regrouper en 4 catégories. Les premières catégories les plus ressenties sont les crises vaso-occlusives, c'est-à-dire les douleurs. Ces crises vaso-occlusives, à très jeune âge, à partir de 6 mois, commencent par ce que nous appelons le syndrome PMN. Ce sont des enfants de 6 mois, après la naissance, hein, directement à partir de 6 mois, qui vont avoir les pieds et les mains qui vont se gonfler et qui vont être très, très douloureux. Et en ce moment-là, déjà, c'est les premiers signes de la maladie qui vont apparaître. Mais malheureusement, dans nos sociétés, quand on voit un enfant pour rien du tout, qui a les mains qui sont édématiées et donc tuméfiées, on pense que c'est son grand frère qui l'a poussé et qu'il est tombé. Et on va le mettre sur ce compte-là. Malheureusement, 2, 3, 4 jours après, ces douleurs vont passer et ça va rester comme ça. Ce n'est qu'après, quand l'enfant va continuer à faire ces crises-là, ces douleurs-là, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, quand il va commencer à dire qu'il a mal à l'os, en ce moment, dans toutes nos sociétés, les gens se disent « Ah, c'est possible que ça soit l'hématie proprement dit. » Parce que en Haoussa, bien sûr, on le dit qu'ils ont caché, en Zerma, Yenifara. Donc, en ce moment déjà, c'est l'enfant même qui commence à faire le diagnostic de sa maladie. Les premiers signes, comme je vous l'ai dit, donc, c'est les crises douloureuses, qui sont des crises vaso-occlusives, syndrome même pied, quand l'enfant a 6 mois, 1 an. Maintenant, à partir d'un an, 3, 4, 5 ans, c'est la crise vaso-occlusive osseuse même qui commence à apparaître. Et en ce moment-là, on peut faire donc le diagnostic. Les deuxièmes signes qu'on va rencontrer, ce sont les anémies. Les anémies, c'est quoi? C'est la baisse du taux d'hémoglobine dans le sang. On va dire que ce sont des personnes qui n'ont pas assez de sang. Les personnes normales, eh bien sûr, ces personnes normales, quand on va prendre le sang, l'hémoglobine qu'on va retrouver va être pratiquement entre 11 à 15 pour la femme et 13 à 16 pour l'homme. Mais quand ce sont des drépanocytaires, eh bien, quand c'est un drépanocytaire, c'est la plupart du temps, on va se retrouver avec une hémoglobine à 7 maximum, hein, maximum 7 à 8 grammes qu'on va se retrouver. Sinon, la plupart du temps, c'est même 6 à 8 grammes. Donc, vous voyez, quelqu'un qui doit avoir une hémoglobine normale à 12, 16, qui se retrouve à 6 et 8, c'est donc un gap d'hémoglobine qui n'a pas. Donc, en plus de ça, la personne peut faire, malheureusement, très souvent, quand il y a une autre maladie associée, la plupart du temps, c'est le paludisme. Nous sommes entrés un peu déjà dans la saison pluvieuse et nous savons que pratiquement dans un mois, les crises d'anémie aiguë vont vraiment flamber chez ces drépanocères-là parce qu'ils vont faire leur paludisme. Ils n'ont pas beaucoup de sang dans leur organisme et le peu de sang qui sera là, le paludisme va commencer à détruire ces globules rouges et la personne va tomber dans ce que nous appelons l'anémie aiguë. Ils vont se retrouver à 3 ou 4 grammes d'hémoglobine et il va falloir les transfuser. Les troisièmes signes qu'on va retrouver, ce sont des crises thrombotiques. Les crises thrombotiques, c'est quoi? C'est le fait que les globules rouges dans le sang vont se falciformer et en ce moment, ils vont bloquer la circulation sanguine. Cette circulation sanguine, quand ça se bloque, surtout dans deux foyers les plus importants, il s'agit du premier foyer, il s'agit du cerveau. Et quand cette crise thrombotique apparaît au niveau du cerveau, eh bien, ça va donner ce que nous appelons les AVC, les accidents vasculaires cérébraux qui vont être ischémiques la plupart du temps. Donc, quelqu'un qui veut un AVC, eh bien, la plupart du temps, il va perdre l'usage de tout un hémicorps. Donc, ça veut dire qu'un corps, l'hémicorps, soit gauche ou droit, l'enfant ne peut même pas mouvoir le pied ou la main. Et très souvent associé, l'enfant ne peut même pas parler. Maintenant, le deuxième endroit où on peut avoir ces crises thrombotiques, c'est les poumons. Vous savez que, sans la respiration, chacun de nous ne peut exister plus de 3 minutes. Eh bien, au niveau du poumon aussi, ces crises thrombotiques peuvent engendrer ce que nous appelons le syndrome thoracique aigu. Et ce syndrome thoracique aigu est la pire des maladies que nous voyons au niveau des drépanocytaires parce que c'est la première maladie tueuse des drépanocytaires. Donc ça aussi, c'est très important. Le troisième syndrome thrombotique que nous voyons, ça c'est surtout c'est les hommes, c'est ce que nous appelons le priapisme. Et donc c'est un enfant, qui est un jeune homme, un enfant, qui va avoir au niveau de son pénis une accumulation de sang qui va se faire. Et ce sang, malheureusement, le retour veineux ne se fait pas et il va être en érection pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Certains vont faire jusqu'à 48 heures où l'organe génital est en érection. Ça détruit l'organe génital. C'est quelque chose qu'il va falloir éviter. Maintenant, la quatrième catégorie, ce sont les infections. Eh bien, les infections aussi sont assez nombreuses chez le drépanocytaire parce que malheureusement, ces drépanocytaires-là, vu qu'au niveau du sang, les drépanocytes, c'est-à-dire les globules rouges falciformes, c'est ce que nous appelons drépanocytes, ils vont être détruits au niveau de la rate. Or, cette rate-là, elle est là non pas pour détruire les globules rouges, mais elle est là pour détruire les bactéries et tous les germes qui vont entrer au niveau de l'organisme. Donc, vous voyez qu'un drépanocytaire est effectivement quelqu'un, un terrain favorable aux infections. C'est pourquoi que ces patients-là, on leur fait la vaccination, on essaie de mettre tous les vaccins disponibles, on essaie de leur faire ça pour leur éviter d'avoir des maladies qui sont déjà là. Voilà donc les 4 principaux signes regroupés qu'on rencontre chez donc les drépanocytaires.
On comprend bien, docteur, qu'on doit donc leur faire les vaccins, mais aussi les mettre à l'abri des piqûres de l'anophèle femelle afin qu'ils ne tombent pas malades du paludisme. Ça peut être des facteurs qui peuvent leur causer une dégradation très difficile à supporter. Nous le voyons donc, cette maladie héréditaire invalidante est souvent à la base d'énormes souffrances pour les malades et leurs familles. Nous vous proposons de suivre à cet effet les témoignages de quelques femmes mères d'enfants drépanocytaires rencontrées au Centre national de référence de la drépanocytose de Niamey.
Je vous dis, la drépanocytose fait souffrir nos enfants. On est obligé d'avoir beaucoup de patience. Parfois, l'enfant ne peut même pas se tenir sur ses pieds. Et les médicaments coûtent excessivement cher. Parfois, quand tu n'as rien, tu es obligé de t'endetter. Sans prise en charge, et si tu te retrouves avec 1 à 2 enfants drépanocytaires, tu ne peux rien réaliser comme projet dans ta vie. Si l'enfant ne fait pas de crise, ça fatigue moins. Mais en cas de crise, si tu viens ici, ce sont des petites ordonnances qui font 15 000 francs. Après ça, il y a des examens à faire. Il arrive que le médecin demande même à ce qu'on fasse l'échographie du malade. Ça fatigue l'enfant et tous ses parents et ses proches. Si tu dis que tu n'as pas d'argent pour acheter les produits, c'est un autre problème, parce que eux, ils ne savent pas si tu as de l'argent ou pas. Certaines personnes viennent ici et retournent à pied à la maison parce qu'elles n'ont plus rien sur elles. C'est pourquoi avant le mariage, il est important que chacun des futurs époux fasse l'électrophorèse parce que certaines personnes ne présentent aucun signe de la maladie. C'est après le mariage que les problèmes commencent. Maintenant, moi je suis là depuis 7 heures du matin pour un prélèvement et on m'a dit d'attendre 13 heures pour les résultats. Parfois encore, il faut attendre jusqu'au lendemain. Si tu n'as pas suffisamment de moyens et si tu es loin, comment tu peux arriver à faire tous ces va-et-vient? Moi, mon mari est obligé de me laisser 50 000 francs chaque fin du mois pour assurer les dépenses pour mon seul enfant drépanocytaire parmi mes 5 progénitures. Parce qu'il est conscient qu'en cas de crise, s'il n'a pas d'argent, c'est grave. Parfois, avec une seule hospitalisation, cette somme ne représente rien du tout face aux dépenses à faire. Donc, si tu n'as pas un bon salaire, comment tu vas faire? Les drépanocytaires ont vraiment besoin d'aide.
C'était là donc les témoignages de quelques femmes. Quelle analyse suscite de votre part ces témoignages, Ila Mohamed Loli, président de l'ONG Bafouné Drépanocytaire du Niger? Nous avons vu parmi justement les symptômes. Elle a parlé de douleurs au niveau des pieds que Dr Ali Beydari a évoqué dans la première catégorie en ce qui concerne les symptômes.
Merci beaucoup. Et je dois profiter en tout cas pour rendre un vibrant hommage donc à nos parents, à nos mamans principalement, à tous les parents drépanocytaires. Donc comme elle l'a dit, les crises d'un drépanocytaire, le coût varie de 30 000 à 100 000 quand ce n'est pas compliqué, quand c'est une crise en tout cas non compliquée, et au-delà quand c'est extrêmement grave. Donc imaginez pour une famille qui n'a pas du tout les moyens d'assurer les traitements de ces crises-là aux malades drépanocytaires. Parce que souvent, dans une famille, il peut y avoir jusqu'à 5 enfants drépanocytaires. Donc, imaginez les crises, les coûts que ça fait donc, pour toutes ces crises-là. C'est pourquoi, en tout cas, nous sommes en train de faire tout pour que vraiment les prises en charge des drépanocytaires qu'on ait vraiment une prise en charge aux parents, en tout cas aux malades qui sont issus des familles, en tout cas pauvres, que le coût, en tout cas, des traitements de ces crises-là revienne à un coût vraiment moindre. Ça, c'est, je dois le dire, c'est une maladie dont ce n'est pas tout parent, en tout cas, qui peut supporter le coût de la prise en charge.
Mm-hmm.
Ça, c'est une maladie qui fatigue financièrement donc, nos parents. Il y a même souvent des préjugés que nous avons eu à faire face où on disait que voilà, c'est une malédiction. Mm-hmm. Quand il y a la drépanocytose, on dit que voilà, c'est une malédiction dans la famille. Ça a évolué et petit à petit, maintenant, les gens commencent à connaître vraiment ce que c'est que la drépanocytose.
Mm-hmm.
Voilà.
La prise en charge, ça veut dire quoi pour vous? Quand vous partez au centre, le traitement, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un appui de l'État ou en tant que président de l'ONG Bafouné Drépanocytaire du Niger, expliquez-nous cela.
La prise en charge, avant même la création de ce centre, la prise en charge se faisait au niveau de l'hôpital. Et le centre a été créé en 2012. Donc, vous voyez, avant, la prise en charge se faisait à l'hôpital. Et imaginez donc le coût de produits. Avant, il n'y avait pas une réduction même à l'endroit des malades. Heureusement, à un moment, on a eu une convention avec l'hôpital. C'est à peu près 80% donc, de la somme donc, qui est prise en charge
par
l'État et les partenaires. Malheureusement, aujourd'hui, cette convention ne tient plus. Aujourd'hui, la prise en charge s'est faite maintenant au niveau du centre. Et comme vous savez, maintenant, ce n'est pas uniquement les drépanocytaires, c'est presque dans tous les centres. Les enfants de 0 à 5 ans seulement bénéficient de
la gratuité des
la
soins.
Gratuité
pour les enfants
des soins.
De 0
donc,
à 5 ans.
Oui. Pour les malades drépanocytaires aujourd'hui, il n'y a pas une prise en charge en tant que telle voilà,
spécifiquement
permet à tous les malades d'être pris en charge au niveau de ces centres.
Mm-hmm.
Donc, tous les produits sont presque même en rupture. Les produits de premiers soins en cas de crise, donc au niveau de la pharmacie même de ces centres, et il y a une rareté de certains produits où tu es obligé d'aller dans les pharmacies. Mmh. En chercher.
Ça veut dire que ce n'est pas disponible au centre, mais on peut les acheter dans les pharmacies.
Justement.
Est-ce à dire que vous avez plus d'avantages à acheter au niveau du centre que dans les pharmacies?
Oui, on a plus d'avantages à acheter au niveau du centre parce que les produits qui se vendaient au centre, à la pharmacie de ces centres, revenaient un peu moins chers par rapport aux autres pharmacies. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits, les produits même nécessaire pour les soins même de cette maladie qu'on ne trouve pas ou tu es obligé d'aller dans les autres pharmacies en chercher. Alors que tu es là au centre, donc tu souffres les crises, tout ça. Il faut que tu ailles chercher ces produits-là dans les autres pharmacies.
Alors, docteur Ali Baydari, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose, il a évoqué la question de la prise en charge. Justement, il y a une prise en charge, on le sait, pour tous les enfants du Niger âgés de 0 à 5 ans. Mais la drépanocytose ne se limite pas seulement à cette tranche d'âge. Ça veut dire que ces personnes ont besoin de soutien pendant toute leur vie. Comment se fait cette prise en charge au niveau du Centre national de référence de la drépanocytose?
Ok, sincèrement, c'est une question qui nous tient à cœur, nous qui sommes ici en train de prendre en charge ces patients-là. Il faut le dire, j'ai entendu les témoignages de l'ensemble de ces femmes qui ont lancé un cri de cœur, celle-là même qui a un peu d'argent, qui dit que son mari lui laisse 50 000 par mois pour gérer un enfant et que quand elle arrive au centre, une fois hospitalisée, même le premier jour, ça peut leur faire dépenser plus de 50 000. Effectivement, vous voyez, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui est pratiquement notre quotidien. Pour nous, sincèrement, chaque jour qu'on voit qu'on hospitalise quelqu'un de plus de 5 ans, nous savons que ce sont des dépenses énormes qui vont se faire. Dépenses énormes parce que, premièrement, les produits qu'on va payer, la plupart du temps, ce sont des produits qu'il faut valoir mettre 3 ou 4 fois par jour. Par exemple, les antidouleurs, si nous prenons le paracétamol en injectable qu'on fait, on doit le faire pendant toutes les 6 heures, donc 4 fois dans la journée. Vous voyez, celui qui paye, grosso modo, le paracétamol en injectable doit coûter dans les 1 000-1 500 francs. Donc, vous voyez que rien que le paracétamol, si on prend 1 500 fois 4, ça vous fait déjà 6 000 francs. Rien que du paracétamol que la personne doit utiliser par jour, si on le garde ne serait-ce que 5 jours, ça fait 6 fois 5, ça vous fait 30 000. Rien que paracétamol. Et donc, sincèrement, les études qui ont été faites ont prouvé qu'une hospitalisation d'un drépanocytaire à moyenne peut coûter jusqu'à 200 voire 300 000 francs PFA. Et donc, c'est pour vous dire que cette maladie-là n'est pas à la portée de tout le monde. C'est pourquoi le centre a été créé. Le centre a été créé déjà en 2009, mais elle a ouvert ses portes en janvier 2010. À partir du 9 janvier 2010, le centre a ouvert ses portes. Comme il a eu à le dire, effectivement, il y avait le suivi au niveau de la pédiatrie. Et la plupart du temps, c'est pourquoi nous insistons sur ce suivi-là, parce que les personnes qui sont régulièrement suivies font rarement des crises, font rarement des maladies qui vont faire en sorte qu'on les hospitalise. Donc, voyez-vous, comme on le dit en santé, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, la prévention chez nous ici, c'est vraiment le suivi. Et le suivi, c'est ça qui est le plus important à faire. Et comme je l'ai dit un peu en haut, c'est des vaccinations aussi qu'il va falloir faire, des examens complémentaires qu'il va falloir faire. Donc, le traitement, la prise en charge de cette maladie, effectivement, c'est très coûteuse. Et sachez que l'année passée, début 2019, je pense, nous avons été conviés au niveau donc de l'Assemblée nationale pour faire la sensibilisation de nos députés sur cette prise en charge des malades drépanocytaires. Et nous pensons que la représentation nationale a été sensibilisée sur la prise en charge de cette maladie-là. Et je pense qu'ils sont en train de prévoir quelque chose pour que l'État, à leur niveau, puisse essuyer les larmes de nos pauvres mères, de nos pauvres sœurs, de nos frères, parce que nous pensons que la même manière dont on a eu à faire la gratuité de soins au niveau des cancers, la gratuité de soins au niveau des césariennes, je pense que la représentation nationale va se pencher sur ça pour qu'il y ait aussi la gratuité de soins chez les drépanocytaires, parce que ce n'est pas facile. Sincèrement, chaque jour que vous venez au centre, il y a deux fois, sincèrement, moi je me mets dans mon bureau pour pleurer. C'est pas facile. Les mots me manquent de fois. Hein. Sincèrement, les mots me manquent de fois. Je ne sais pas même comment dire.
La dame a témoigné que parfois vous ignorez s'ils ont de l'argent ou pas. Ça veut dire que vous êtes conscient que c'est difficile.
On ne peut pas ignorer qu'ils n'ont pas l'argent. On ne peut pas ignorer. Nous savons tous, la bourse du Nigeria, chacun de nous le sait. Maintenant, entre l'argent qu'il va falloir dépenser et la vie du patient, je pense que le choix ne se pose pas. C'est surtout ça qu'eux aussi ne voient pas. Nous, nous voyons la vie du patient. Eux, ils voient la poche du père ou de la mère. Donc, vous voyez, c'est normal, nous sommes des médecins. Pour nous, il faut tout faire pour ramener cette personne à la vie. L'État fait des efforts, c'est toujours important. L'État a fait toujours. C'est l'État qui finance le CNRD déjà. Le fonctionnement du CNRD, ce ne sont pas les consultations des malades, hein. C'est la subvention de l'État, les salaires des médecins, les salaires des infirmiers, tout et tout, c'est l'État qui prend en charge. Donc l'État fait beaucoup de choses, ça c'est normal. C'est la charge régalienne de l'État. C'est pourquoi je vous ai dit que l'ADN, elle est partie jusqu'à l'Assemblée pour pouvoir plaider dans ce sens-là. Et je pense que chacun de nous est conscient du fait qu'un parent seul, quel que soit le salaire qu'il a, ne peut pas prendre en charge un seul drépanocytaire. À plus forte raison, où nous avons des parents qui ont jusqu'à 2, 3, voire jusqu'à 5 patients qui sont drépanocytaires. Et ça, c'est très difficile. Je vous assure, un parent ne peut pas. Il ne peut pas prendre en charge lui seul un enfant drépanocytaire. Je pense que l'ONG Bafouné est là, l'ONG ALDN est là, l'ONG Drépavi est là. Je pense que de collaboration avec l'ensemble de ces ONG, je pense qu'ils vont pouvoir aller voir qui le doit pour que cette maladie aussi soit parmi les maladies orphelines et qu'ils aient une prise en charge vraiment totale de l'État. Des fois, on est obligé de faire ce cri de cœur-là, de voir avec les autres comment faire pour vraiment soulager les patients que nous voyons tous les jours. Nous ne savons même pas quoi faire. Nous ne savons pas où mettre la tête quand quelqu'un vient au centre et qu'il vous dit c'est frais de taxi même, il a pu emprunter pour venir. Alors, vous voyez, quelqu'un qui prête des frais de taxi de 200 francs pour venir au centre, c'est vraiment très, 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 très difficile.
Vous avez été interpellé par ces dames qui ont témoigné, mais voilà qu'on sent que vous êtes vous-même en fait un peu gêné de leur situation. Merci beaucoup pour cet éclairage. Nous allons à présent vous poser la question de savoir comment se fait cette prise en charge à l'intérieur du pays, docteur.
Eh bien, au niveau de l'intérieur du pays, lorsque le centre a été ouvert, nous avons fait des dossiers pour les malades. Eh bien, ce dossier de suivi-là, nous le faisons pour tous les malades quelle que soit la région où il est. Maintenant, nous avons regardé que, vous avez vu, les gens de Niamey, eux, peut-être que c'est les frais de taxi qu'ils utilisent pour venir. Imaginez-vous les gens de Difa. Il faut peut-être 25 000 allers, 25 000 retours, rien que le transport, 50 000. Et ça, c'est pour un patient. Si c'est un jeune homme de, disons, 20 ans, plus le père qui va venir ou la mère qui va l'accompagner, ça fait 100 000 pour venir à Niamey. Vous voyez que c'est une prise en charge qui est vraiment terrible. Alors, donc, nous avons réfléchi au niveau du centre pour dire que désormais, puisque le traitement de la drépanocytose n'est pas aussi compliqué que ça, le suivi n'est pas aussi compliqué que ça, nous avons réfléchi pour dire qu'il va falloir décentraliser cette prise en charge-là, de ne pas dire à tout le monde de venir au centre, tout le monde de venir au CNRD, mais plutôt que chacun se rende dans sa région d'abord. Et nous avons formé les médecins pour ça. Nous avons fait plusieurs formations, la formation des formateurs et en cascade la formation au niveau du terrain pour tous les médecins dans tous les districts du Niger, pour que quand il y a un drépanocytaire, ce n'est pas la peine que la personne se lève de Difa pour venir à Niamey directement. À partir de Difa, il peut s'arrêter au sachet de Difa pour faire ses soins. Ce n'est que quand la prise en charge là-bas les dépasse ou ils ne peuvent pas avoir la spécialité pour la prendre en charge là-bas, en ce moment, comme tous les autres malades, ils peuvent faire la référence pour que la personne arrive donc au CNRD. Donc sachez que désormais, en tout cas à partir de 2019, avec toutes les réflexions et les études que nous avons eues à faire, nous nous sommes concentrés donc à former les gens pour que la prise en charge soit décentralisée et que cette prise en charge se fasse désormais dans les régions d'abord. Ce n'est que quand la région n'est pas capable de prendre en charge le patient parce qu'il y a eu une complication un peu plus sévère. Par exemple, je vous ai parlé un peu d'une des complications les plus sévères, des AVC. Quand quelqu'un fait un AVC, c'est un peu plus compliqué. On lui demande de venir au CNRD pour que nous voyons ensemble comment essayer d'y remédier et éviter à ce que la personne repasse cet accident-là.
Docteur, est-ce que la drépanocytose réduit l'espérance de vie chez la personne atteinte?
Elle réduit l'espérance de vie quand elle n'est pas suivie. Parce que l'homme explique qu'il y a pratiquement chaque année 300 000 enfants qui naissent drépanocytaires. Tous ces 300 000 enfants qui naissent drépanocytaires, on dit que ça fait 200 000 qui naissent sur le continent africain. Et ils ont poussé les études pour dire que 50% de ces enfants-là, donc les 100 000 enfants nés, ne verront pas leur 5e anniversaire s'ils ne sont pas suivis. Voyez donc les catons. C'est-à-dire la moitié de ces enfants qui naissent ne vont pas avoir 5 ans s'ils ne sont pas suivis. Ça veut dire que c'est très important ce suivi des enfants drépanocytaires. Parce que si l'enfant n'est pas suivi, avec toutes les complications que je vous ai données, eh bien, c'est difficile qu'un enfant qui n'est pas suivi puisse dépasser l'âge de 5 ans.
Merci donc à vous, docteur, pour cet éclairage. Il a Mohamed Loli, président de l'ONG Bafoune Drépanocytaire. On voit bien toutes les difficultés et les problèmes de santé que soulève docteur. Ça veut dire que les enfants drépanocytaires doivent être suivis dès le bas âge, puisque nous voyons à travers les indications de l'OMS que sur les 200 000 enfants drépanocytaires qui naissent en Afrique, les 100 000 ne verront pas leur 5e anniversaire s'ils ne sont pas suivis. Ça veut dire la moitié de ces enfants meurent s'ils ne sont pas suivis avant l'âge de 5 ans, alors que nous avons des zones très reculées. Et c'est un peu difficile de prendre en charge justement cette maladie, ce qui peut faire augmenter naturellement le taux de mortalité infantile. Mais à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez dans le but de faciliter cette prise en charge de la drépanocytose partout au Niger?
Merci. Pour le moment, nous nous sommes donnés comme objectif d'abord de sensibiliser, de faire connaître cette maladie à l'endroit de toute la population du Niger. Et en deuxième phase, maintenant, faire à ce que les tests prénuptiaux, l'électrophorèse, soient insérés, en tout cas comme l'une des choses à faire, en tout cas avant le mariage, pour chaque couple, avant de se marier. Nous encourageons, en tout cas, le docteur, comme il l'a eu à le dire, ils sont en train de former les médecins afin que la drépanocytose soit prise en charge dans les autres régions du pays. Donc, nous allons nous accentuer donc à faire connaître cette maladie, même si à travers nos campagnes de sensibilisation et les conférences que nous menons dans les écoles, dans les chefs-lieux des régions aussi. Grâce à ça, je pense bien, voilà, on peut un peu peut-être réduire cette croissance de la drépanocytose.
Docteur Ali Baydari, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose, que signifie l'électrophorèse et quelle est son importance dans le cadre justement de la lutte contre la drépanocytose?
Eh bien, l'électrophorèse, c'est un examen de laboratoire qui permet de déterminer si la personne est drépanocytaire et quelle est la forme de drépanocytose qu'il a. Mais sachez que avant de faire l'électrophorèse, dans toutes les régions, ce qui est facile de faire, c'est le test d'Emel, test d'hématie falciforme, le HF qu'on dit fréquemment. Ce HF permet de dire qu'il y a des hématies falciformes dans le sang de la personne. Mais ce test, le premier test HF, ne permet pas de dire que cette personne est SS ou SC ou S-bêta ou a le trait drépanocytaire. Ce n'est qu'avec l'électrophorèse de l'hémoglobine qu'on peut déterminer maintenant. Une fois qu'il arrive, on fait donc l'électrophorèse pour dire effectivement c'est le AS, c'est le AC, c'est le A-bêta tal quand c'est des porteurs sains ou c'est le SS, c'est le SC ou c'est le S-bêta tal quand c'est le syndrome drépanocytaire majeur. Voilà donc les résultats que peuvent donner l'électrophorèse de l'hémoglobine.
Docteur, l'électrophorèse est-elle gratuite?
L'électrophorèse n'est pas gratuite. C'est un examen qui se fait ici, ça fait depuis, je ne l'ai pas en mémoire vraiment. Et elle est gratuite simplement pour les 0,5 ans, comme on vient de le dire, hein, pour tous les autres examens. Et les enfants 0,5 ans, les examens sont gratuits, mais pour plus de 5 ans, malheureusement, il va falloir payer. Mais c'est moins cher que par rapport en ville, ça je le sais très bien. Il y a une réduction, nous avons fait une réduction de pratiquement 30% sur tous les examens par rapport aux autres, d'abord hôpitaux nationaux. Donc nos examens ont 30% de moins que les autres hôpitaux, tels que l'hôpital national, l'hôpital La Mordée et les autres centres de santé qui sont vraiment dans un cadre étatique. Donc nos prix sont vraiment les moins chers par rapport à ça parce que nous avons tenu compte de ce que j'ai dit en haut, la poche du parent des drépanocytaires et le fait que c'est une maladie chronique qui va faire en sorte que ce sont des personnes qui vont venir continuellement au centre et qui peut-être vont venir le jour où la personne n'a pratiquement rien.
L'électrophorèse n'est donc pas gratuite, mais elle est vivement recommandée avant le mariage. Alors d'abord, docteur, à quel moment faut-il faire cette électrophorèse et quelle est son importance avant le mariage, de faire ça avant le mariage?
L'électrophorèse, la plus importante, si on peut le faire, c'est de le faire à la naissance déjà. Le dépistage néonatal, c'est un dépistage qui peut se faire à partir du 3e ou voire 4e jour de la naissance. Si on peut le faire pour tous les enfants nigériens à la naissance, alhamdoulilah, ça nous permettra de voir déjà ceux qui sont les conducteurs de la maladie. Et maintenant, pour inverser la tendance, il suffit juste de faire en sorte que le mariage entre les deux personnes qui ont le trait drépanocytaire ne se passe pas, ou le mariage entre un drépanocytaire et celui qui a le trait drépanocytaire ne se passe pas. C'est ça qui est notre idéal. Notre idéal, c'est vraiment d'aller vers ce niveau-là. Maintenant, si on ne peut pas le faire à la naissance, l'idéal, c'est de le faire au moins au niveau des collèges et lycées, avant même que la personne ne pense à fonder un foyer. À ce niveau, quand on va faire l'électrophorèse au collège et au lycée, ce sont des étudiants, ce sont des élèves que nous pouvons informer sur les dangers de cette maladie-là et faire intervenir leur intelligence pour qu'ils évitent de faire le mariage entre ceux-là qui ont de très défenseurs entre eux. Et donc, vous voyez que c'est la première. Maintenant, en dernier recours, malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent, c'est qu'au niveau du dépistage prénuptial, malheureusement, quand on a déjà fixé la date du mariage, à ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que quand deux familles sont engagées, il est difficile de refaire le retour pour dire non, il faut arrêter, on ne peut pas marier ces deux jeunes-là.
Pourquoi alors il faut tout faire pour éviter à ceux qu'il y ait de mariage entre porteurs, qu'ils soient sains ou malades?
Puisque nous disons, une fois que l'électrophorèse est faite et que chacun connaît son statut électrophorétique, eh bien, quand il y aura un mariage entre AS et AS, ils vont avoir un enfant sur 4 qui peut être SS, un enfant sur 2 qui peut être AS et un enfant sur 4 qui peut être AA normal. Chaque enfant, bien sûr, va naître avec sa chance. C'est un gène qui ne s'exprime pas tant qu'elle n'est pas en double. Tant que la personne n'a pas reçu des deux côtés, c'est un gène qui ne va pas s'exprimer. Quand une personne est AS, une personne est AC ou une personne est A bêta thalassémie, ce sont ces personnes-là qui n'ont aucun signe de la maladie. Et c'est peut-être le danger de cette maladie-là, parce que la plupart du temps, toutes les personnes qui ont ce gène-là sont bien portantes et n'ont aucun signe. Mmh. Ce n'est que quand ils vont se marier, entre eux, bien sûr, la femme, l'homme qui ont le trait de répandeur vont se marier et ils vont donner naissance à un enfant SS. C'est le moment seulement que l'on va se rendre compte que puisqu'ils ont eu un enfant SS, ça veut dire qu'ils ont dans leur sang le gène S. Ce sont des personnes qui sont apparemment saines et qui vont transmettre cette maladie à leur progéniture sans bien sûr le savoir.
Donc, docteur, le mieux, c'est de faire un mariage où on n'a pas les deux qui portent le gène S, c'est ça?
Oui, si on peut faire le mariage, c'est soit on fait le mariage entre la personne qui n'a pas du tout le gène S avec une personne qui a le gène S. C'est-à-dire on peut faire mariage entre AA et AS, ils vont avoir 50% de AA et 50% de AS. Si on fait mariage entre AA et SS, il y aura 100% qui seront AS, vous voyez?
Ça veut dire qu'il n'est pas conseillé que les drépanocytaires se marient entre eux, mais ils doivent plutôt se marier avec des gens qui ne portent pas du tout le gène de la drépanocytose.
Voilà, si vous avez très bien compris, c'est ce que je voulais dire par là. Donc, tous ceux qui ont le trait drépanocytaire ou tous ceux qui sont drépanocytaires doivent éviter au maximum de se marier avec ceux qui ont déjà le trait drépanocytaire ou ceux qui sont drépanocytaires parce qu'ils vont avoir des enfants drépanocytaires. Donc c'est pourquoi quand on fait AS et AS, eh bien, puisqu'il y a une chance sur quatre d'avoir un enfant drépanocytaire, ce n'est pas minime. Ce qui fait que dans certains foyers, on peut avoir des enfants qui ont jusqu'à quatre sont drépanocytaires.
Ça veut dire qu'à la longue, docteur, avec une bonne politique, on peut arriver à ne pas avoir du tout d'enfants drépanocytaires.
Bien sûr, bien sûr. Cette situation idéale, c'est quand il n'y aura pas de mariage entre AS et AS, il n'y aura pas de mariage entre AS et SS ou ST, il n'y aura pas de drépanocytaires du tout.
Merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie.
Merci infiniment. Ilha Mohamed Loli, président de l'ONG Bafoué Drépanocytaire, c'est de nous dire rapidement, selon vous, quels sont les obstacles à ce dépistage prénuptial de la drépanocytose au Niger? Et que faire pour inverser cette tendance actuelle?
Justement, le problème qui se pose au niveau de ces tests, c'est que beaucoup de gens ne connaissent même pas la maladie, à plus forte raison même connaître le test là, donc l'électrophorèse. Comme docteur a eu à le dire, au niveau même du centre qui est dédié même pour la prise en charge de la drépanocytose, c'est pas gratuitement. Donc déjà ça c'est de deux, même les couples quand ils veulent se marier, donc, quand tu demandes à ton conjoint de faire un test voilà pour savoir si les porteurs drépanocytaires ou pas, donc déjà là ça peut créer des problèmes pendant les fiançailles. Donc ici, il s'agit même de dire maintenant à tous les couples, en tout cas, quand tu veux te marier, c'est une obligation pour toi à ce que voilà, ton partenaire puisse connaître ton état de santé. Il faut savoir si vraiment tu dois t'engager avec cette personne ou pas. Un porteur du gène S peut se marier avec quelqu'un qui est bien portant. Et aussi, un SS peut se marier avec quelqu'un qui est bien portant, donc qui n'a pas du tout le gène S dans son sang. Donc là, je pense bien, en encourageant cela, en édifiant les gens sur ces différents textes ou bien avec qui se marier, je pense bien, on peut vraiment...
Contribuer déjà voilà, à lutter contre cette maladie. Merci à vous, fidèles auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui vient de traiter le thème « Situation de la drépanocytose au Niger. Quel rôle peut jouer le dépistage précoce dans la lutte contre cette maladie ?» Nous retenons que la drépanocytose constitue un problème majeur de santé publique. Les parents, les enfants, les personnes qui souffrent de cette maladie et leurs proches souffrent énormément, d'où la nécessité d'améliorer la prise en charge de cette maladie au Niger. Comme a eu à l'expliquer Dr Ali Baydari, il faut que tous les deux parents soient porteurs du gène S pour que l'enfant soit drépanocytaire. Alors pour éviter cela, il faut procéder à une électrophorèse qui permet de ne pas marier deux porteurs du gène S, ce qui permet donc de ne pas avoir d'enfant drépanocytaire. Nous étions en compagnie de M. Ilha Mohamed Loli, président de Bafoué Drépanocytaire du Niger, une ONG créée en 2007 qui mène des actions de sensibilisation sur la drépanocytose au Niger. Et en ligne au téléphone, nous étions avec le Dr Ali Baydari, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose. Nous disons merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation à la technique Abdoulkader Tchombiano. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du Forum de Studio Kalangou. Passez une excellente soirée et au revoir.